Tout un monde,
Marie-Hélène Fraissé.
Le magazine des cultures et des identités en mouvement. Aujourd'hui, justice communautaire, justice plurielle, point d'interrogation. Que faut-il penser de ces tribunaux coutumiers qu'on voit naître ou renaître ici et là, dans certains pays, qui incluent d'importantes communautés dites autochtones, des communautés qui se trouvent là depuis des millénaires et qui souvent sont rendues minoritaires, qui ont été englobées au fil du temps. Alors on peut penser bien sûr à ce qui se passe aux Amériques, du Nord et du Sud. On a beaucoup parlé il y a quelques années du cas bolivien avec les règlements de compte à El Alto. On peut penser à ce qui se passe en Australie ou même au cœur de ces nations impériales que sont de fait la Chine ou la Russie qui englobent nombre de ceux qu'on appelle parfois de manière abusive les petits peuples. Voilà, on commence par une plongée au cœur de l'Australie avec cette musique qui nous vient de Yuendumu. C'est une communauté au centre de l'Australie, dans ce qu'on appelle le désert rouge. Alors en Australie, comme dans d'autres pays, on voit un extraordinaire renouveau et parfois contre toute attente, des systèmes de justice communautaire traditionnels. Et pour dresser le panorama et surtout réfléchir aux bienfaits et aux éventuels effets pervers de l'émergence ou de la réémergence de ces tribunaux locaux et ethniques, trois invités. Irène Bellier, qui est directrice de recherche au CNRS, laboratoire d'anthropologie des institutions et des organisations sociales. Maria Teresa Sierra, qui nous vient du Mexique, où elle travaille au sein du Centre d'études et de recherche en anthropologie sociale. Et enfin, Ghislain Otis, qui est professeur à l'Université d'Ottawa, chaire de recherche du Canada sur la diversité juridique et les peuples autochtones. Alors, je salue d'abord Irène Bellier, parce que c'est grâce à vous que nous sommes rassemblés aujourd'hui, puisque vous avez organisé, il y a quelques jours, un colloque donc sur cette question des justices plurielles.
Bonjour.
Bonjour Irène.
Voilà, nous avons en effet fait un séminaire sur le pluralisme juridique et nous avons essayé d'examiner la problématique de la justice. Justice pour les peuples autochtones, par les peuples autochtones, avec les peuples autochtones. Question qui se pose en effet face à des phénomènes de justice qui allaient finalement un peu à l'encontre des peuples autochtones. Et je vois que vous avez employé le terme communauté, ils ne sont pas des peuples, des petits peuples, etc. Aujourd'hui, au niveau international, on reconnaît surtout qu'il existe un droit des peuples autochtones. Et ce droit des peuples autochtones qui est acté à travers la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones passée en 2007, pose un certain nombre d'enjeux, notamment des enjeux de reconnaissance qui vont très loin. Il y a le droit à l'autodétermination d'une part, mais ça va très loin au sens aussi de la nécessité de reconnaître des institutions préalables, existantes, coutumières ou autres, qu'on les nomme, mais qu'on les reconnaisse comme des institutions. Et je crois que c'est ça le problème auquel on est confronté aujourd'hui en matière de justice, avec une appréciation de ce que, ayant été marginalisé par la construction de l'État, ayant été finalement discriminé, mis de côté, les peuples autochtones, leurs membres en tout cas, souffrent d'une manière un peu disproportionnée des situations actuelles dans lesquelles ils se retrouvent aujourd'hui et qui les amènent à être plus que de leur part dans les prisons incarcérées. Donc la justice pénale, par exemple, ne passe pas bien pour un certain nombre de populations. Je donnerai en particulier ces exemples, puisque vous avez commencé avec l'Australie. Je voudrais donner quelques chiffres très très brefs, mais les aborigènes australiens représentent 2,5% de la population nationale, mais près de 30% ou 26% de la population carcérale. Les enfants aborigènes représentent 4,2% de la jeunesse et de l'enfance australienne, mais 31% de l'enfance assistée par l'État. Et on se souviendra peut-être, les éditeurs, de cette émission que vous aviez fait sur la question des générations volées, de ces enfants qui ont été arrachés à leur famille pour être éduqués ailleurs, dans des modèles qui finalement reposent sur l'idée toute simple que les autochtones sont des gens un peu des barbares, des civilisés, des sans foi ni loi, pas capables d'élever leurs enfants, etc. Et ces héritages de la colonisation ne sont plus acceptables aujourd'hui. En revanche, on a ces effets dans les prisons aujourd'hui.
Et alors, en ce qui concerne l'Australie, par exemple, on avait eu l'occasion de proposer aux auditeurs de France Culture un exemple, communauté aborigène vivant à l'intérieur d'un univers urbain, hein, à Sydney, dans la communauté de Red Ferns. Et il s'avérait que des jeunes qui avaient des problèmes avec la justice, quand ils étaient pris en charge par un tribunal communautaire, avec des types de verdicts différents, des types de peines différents, suivis d'une manière probablement différente, avaient de meilleurs résultats. Il y avait une sorte de déjà de légitimité qui était donnée et sans doute de meilleures pratiques de suivi quand il s'agissait d'une justice qui était ressentie par ces jeunes de ces communautés aborigènes comme une justice de chez eux, donc légitime.
Je pense que la question de la légitimité est évidemment posée et on doit l'interpréter, je crois que Ghislain Otis nous en parlera certainement plus largement. Il me semble aussi que ce qu'il faut comprendre, c'est en matière, alors quand on parle de justice, il y a quand même plusieurs domaines de la justice. Là, j'ai parlé de justice pénale, du problème d'incarcération, et c'est Martin Préau d'ailleurs qui ne pouvait pas être ici aujourd'hui, mais qui nous en a parlé,
qui travaille beaucoup sur l'Australie, qu'on a eu l'occasion de recevoir.
Voilà. Sur l'Australie aborigène. Donc il y a la question de la justice civile, il y a la question de la justice pénale, il y a la question d'autres formes de justice qu'on aura peut-être l'occasion de voir après. Mais ce qui est posé, c'est d'une part, d'abord un cadre général de compréhension. Les peuples autochtones, les peuples premiers, les peuples indigènes, quels que soient les termes qu'on les emploie, sont-ils nécessairement, pour quelles raisons se retrouvent-ils incarcérés plus que les autres? Il n'y a pas de tendance naturelle à la criminalité, même si les Britanniques, par exemple, ont construit la catégorie de caste criminelle à l'époque de la colonisation, c'est pas une catégorie naturelle. Ce sont des faits de pauvreté, ce sont des faits de marginalisation, ce sont tous ces faits-là qui vont à un moment donné expliquer cet enfermement, cette incarcération, ce traitement-là. Et c'est justement ce point-là qui aujourd'hui est en train de changer. Donc on les a construits comme des pauvres, on les a amenés à être des pauvres. Et à un moment donné, se pose la question pour des jeunes qui peut-être peuvent sombrer dans la délinquance pour une raison ou pour une autre, de savoir comment en sortir. Et là, il faut revalider tous ces collectifs dont vous parliez.
Donc ça veut dire
comme
que ça
capacité,
un...
comme capacité oui. à pouvoir faire passer le droit.
Mais ça va être un énorme chantier parce que pour que ces jurés soient validés, que ces entités juridiques soient validées, c'est aussi en concertation avec les pouvoirs nationaux. Donc c'est un long travail d'élaboration parce qu'on peut pas non plus dire qu'on s'en remet pour la justice civile à telle ou telle communauté. Il y a un droit de regard quand même national à l'intérieur.
Bien, c'est-à-dire que la question des peuples autochtones est posée par vis-à-vis finalement des institutions que l'État a mises en place, et cet État inclut ou n'inclut pas. Cet État continue d'utiliser des modèles de discrimination objective. L'institution judiciaire peut être un de ces modèles de discrimination, ou fait des efforts pour effectivement se transformer et comprendre comment faire passer la justice aussi pour ces populations-là. Il y a des enjeux de langue, des enjeux de traduction, des enjeux de compréhension de la peine, des enjeux de compréhension du délit et des enjeux de reconnaissance de ces institutions-là qui a la capacité de dire le droit. Il y a des enjeux de formation des magistrats dans nos systèmes dominants. C'est tout ça qui est en question, donc ça se fait pas d'un coup de doigt.
Justice communautaire, justice plurielle, point d'interrogation. Vous écoutez Tout un monde sur France Culture. Nous sommes en compagnie d'Irène Bellier, Maria-Thérèse Sierra et Ghislain Otis. Cette musique bolivienne nous amène aussi à dire qu'à certains moments, ça peut susciter un certain effroi, cette justice communautaire, puisque pour le cas de la Bolivie, il y a eu quand même des castrations de violeurs autoritaires, il y a eu des tribunaux populaires il y a quelques années, et on a lynché littéralement des voleurs dans le quartier d'El Alto, qui est le quartier Aymara autochtone de La Paz. Donc c'est pas si très très simple d'avoir cette justice communautaire. Bonjour Maria-Thérèse Sierra.
Et bonjour, merci alors pour l'invitation.
Mais je vous en prie, vous êtes de passage à Paris, vous êtes anthropologue, vous travaillez sur le Mexique. Et au Mexique, pays pluriethnique s'il en est, cette question des justices communautaires est capitale aujourd'hui.
Ah, est fondamentale, oui. Au Mexique, il y a 15 millions de populations indiennes, c'est-à-dire 15% des populations nationales. Et la reconnaissance de la justice communautaire, justice des peuples autochtones, ça c'est parti d'une reconnaissance plus générale de la condition pluriethnique et du pluralisme juridique dans le Mexique. Et depuis des années, 20 années à peu près, après 92, il y a eu des nouvelles lois constitutionnelle qui reconnaît le caractère pluriel de l'État mexicain, de la nation mexicaine. Et après, on a même, dans les lois de 2001, on a reconnu la autodétermination et l'autonomie, les droits d'autonomie qui ont les peuples autochtones pour gérer les questions internes et même la justice. Alors, ça impliquait un changement important au niveau de la conception de la nation parce qu'on n'est pas seulement un pays avec une langue, avec une culture, mais on est pluriel. Et ça, cette reconnaissance implique pas seulement les communautés, mais l'État. Et dans le sens général. Et bon, et reconnaître la justice communautaire, ça veut dire que les peuples autochtones ont leur système juridique avec des autorités, avec des normes et des procédures.
Et qui va être différent en quel sens alors, hein? Si, donnez-nous un exemple d'un système juridique autochtone qui va être, je ne sais pas, tlacaltec, pur aztèque,
disons que Maya. On a à peu près de 66 peuples indiens différents, oui. Chacun a leur système, c'est pas le même. Et disons, c'est pas le même parler des Indiens Chiapas, Oaxaca, que parler avec des Indiens Yaqui au nord du pays.
Qui ont été un peu pilotes d'ailleurs, hein, Oaxaca et Chiapas, un peu pilotes dans cette reconnaissance des droits
surtout,
autochtones.
Oui, et Oaxaca surtout. Alors, ça veut dire que, au niveau de leur, pas seulement les communautés, les municipalités, ils ont autorités, ils ont des autorités qui sont élues par l'Assemblée, parce que c'est un nouvel système d'élire les autorités, pas des partis politiques. Et ils sont aussi là, disons, la pratique de la justice, ça veut dire qu'ils reçoivent des questions mineures, mais aussi des questions plus compliquées. Alors, il y a des limites, disons qu'il reçoit avec des dialogues, il a un certain consensus pour arriver à pour trouver qu'est-ce qui s'est passé. Alors, on invite les gens, on invite la famille. Ce sont pas seulement des jurés, des tribunaux individuels, mais avec une autorité, la personne qui est en vol, mais c'est la famille qui est invitée à résoudre les problèmes. Et c'est surtout une question de dialogue, de convaincre.
Quelles vont être, par exemple, Maria-Thérèse, des valeurs spécifiques à une communauté autochtone qui, éventuellement, ne serait pas reconnue par un tribunal national? Donnez-nous un exemple précis.
Par exemple,
dans des conflits ou dans des délits
Oui. Bon, par exemple, il a des délits qui ont à voir avec une question de croyance, non, même des sorcelleries, on peut dire, non, des croyances surnaturelles. Et les gens, ils sont involués, ils pensent que quelqu'un lui a donné
un mauvais sort.
Et il est devenu malade. Alors, les autorités commencent à chercher qu'est-ce qui s'est passé, hein, si c'est vrai ou pas. Et là, bien sûr que l'État ne reconnaît pas ça. Mais la question, c'est comment résoudre ces problèmes?
Comment pacifier,
non? Et quelquefois, c'est une, bon, la personne reconnaît, la personne qui a commis les délits, il reconnaît que oui, c'était ça. Et bien sûr, si ça arrive jusqu'à l'État dit non, mais écoute, ça c'est pas un délit. Alors, il y a un conflit, non? Je vais pas seulement parler des sorcelleries parce qu'il y a d'autres questions culturelles qui sont mises en place. Le rapport à la terre, si quelqu'un n'a pas, disons, accompli un rituel, par exemple. Et là, c'était fondamental parce que certaines situations se résultent. Et l'autorité intervient sur ça. Et ça, ils comprennent. Mais oui, vous n'avez pas accompli cet rituel. Alors, il faut le faire. Et ça, l'autorité parle avec la personne et ça s'est reçu.
Ça veut dire qu'à ce moment-là, il y a une médiation qui s'effectue au niveau de la communauté dans un domaine où une justice, moderne serait inefficace, incompétente et où le conflit se perpétuerait.
Et bien sûr.
Voilà. Justement, le cas du Mexique, comme on n'a malheureusement pas beaucoup de temps, mais j'ai l'impression qu'il est caractéristique parce que c'est un pays dans lequel je crois savoir que les populations sont particulièrement confrontées à des problèmes de corruption, de déréliction, etc. Donc, ces justices communautaires sont aussi un levier pour agir quand on a un sentiment d'injustice et que la justice nationale ne semble pas réagir et être compétente ou vouloir être compétente.
Eh oui, malheureusement, dans le moment actuel où la violence est augmentée, et à propos des crimes organisés, le narcotrafic, la justice communautaire, ça a devenu un enjeu pour donner des solutions aux gens des villages, pas seulement des villages, des municipalités, parce qu'il permet de donner une sortie. Ils peuvent faire face aux personnes des crimes organisés. Ils disent, vous n'entrez pas ici, parce que ce que l'on voit maintenant, c'est que l'État, la police ne résout pas ces problèmes. C'est pour ça que les communautés se sont organisées. Ils sont, disons, renouvelées des pratiques locales qui peuvent donner une sortie pour se défendre.
Mais il y a des polices communautaires, en l'occurrence?
Eh oui, bien sûr. Il y a même des systèmes de justice et de sécurité au Guerrero, par exemple. Et depuis 20 ans, il y a des communautés qui se sont organisées pour faire face à la violence, à l'insécurité. Et ils ont eu beaucoup de succès dans cet endroit. Et, disons, il faut parler de 60 municipalités, 100 000 personnes. Et la délinquance a été réduite à 90%. Alors, c'est-à-dire que cette influence de ces systèmes de justice et de sécurité et a une implication pas seulement pour les Indiens, mais aussi pour les gens qui habitent dans cet endroit. Alors, ça veut dire aussi que l'État n'est pas capable de résoudre les problèmes parce que, malheureusement, il a beaucoup d'impunité.
Mais il laisse faire, en l'occurrence.
Il laisse faire, il s'intéresse pas. Alors, les gens doivent prendre dans leurs mains l'organisation de la justice.
France Culture, tout un monde. Marie-Hélène Freissé.
Justice communautaire, justice plurielle. Nous sommes en compagnie d'Irène Bélier, Maria Teresa Sierra et Ghislain Otis. Ghislain Otis, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes professeur donc à l'Université d'Ottawa. Vous occupez la chaire de recherche sur la diversité juridique et les peuples autochtones. Au Canada, il y a ces 3% à peu près de peuples dits autochtones, 5%?
Environ entre 3 et 4%.
Donc les Amérindiens d'un côté, les Inuits dans le nord.
Oui, oui, ces deux catégories étant autochtones au sens générique du terme.
Alors, on avait l'impression que le Canada pouvait être un peu pilote dans ces questions donc de diversité juridique. Depuis longtemps, par exemple, on a instauré au Nunavut, donc cette entité autonome au nord du Canada, donc où sont les Inuits, un type de justice où il y a un procureur qui se balade, qui fait des petits sauts de puce en avion pour aller rendre la justice, mais les préalables ont été établis par des tribunaux locaux, communautaires.
Oui, en fait, il faut savoir qu'au Canada, les systèmes juridiques autochtones dits coutumiers ont été largement éradiqués par l'État.
D'abord.
La fonction régalienne a pour fondement le monopole étatique de la violence légitime et de la répression. Et cette fonction régalienne, elle a été jugée prioritaire par le colonisateur qui s'est attaché très, très rapidement, dès qu'il a acquis un certain contrôle effectif du territoire, à marginaliser, refouler et avec le temps éroder les mécanismes autochtones préexistants de règlement des conflits.
Ça a été partout, pas seulement au Canada.
Oui, mais au Canada, cette désarticulation des modes autochtones de règlement des conflits, vous voyez, je n'utilise pas le mot justice, puisque les autochtones eux-mêmes récusent ce terme qu'ils estiment être trop associé au modèle étatique de règlement des conflits. Ils vont plutôt parler de gestion des conflits.
De négociation.
Oui, de traitement.
De médiation.
Voilà. Tout à fait. Alors, très rapidement, l'État a substitué, et avec une efficacité redoutable, ses propres dispositifs de répression à ceux que les Autochtones pratiquaient de tout temps avant l'arrivée du colon. Mais bon, effectivement, nous, le Canada, comme plusieurs autres pays, est entré dans une ère nouvelle, l'ère de la réconciliation, l'ère de la décolonisation. Et donc, c'est le moment privilégié pour l'État de prendre acte du fait que, nonobstant cet acharnement colonial à éradiquer les cultures juridiques autochtones, ces cultures sont restées néanmoins vivaces sur le plan de leurs valeurs, de leurs principes. Les études empiriques démontrent que même si l'État a tout fait pour, évidemment, neutraliser les processus traditionnels, la mémoire collective autochtone de ce qu'est une véritable justice, selon les autochtones, est encore très vivace. Alors, que fait-on à l'ère de la décolonisation et de l'autodétermination? Eh bien,
comment on rend tout ça compatible?
Voilà, on tente des rapprochements. On tente des rapprochements. Vous savez, la rencontre des cultures juridiques, c'est une forme d'acculturation réciproque. Acculturer ne signifie pas faire disparaître l'altérité, c'est aller vers l'autre. Donc, il y a des laboratoires au Canada en matière de, si on veut, de rapprochement des traditions juridiques autochtones d'une part et du système juridique occidental d'autre part.
Mais alors, ça débouche sur des lois locales, sur des juridictions locales?
En fait, les expériences qui se font au niveau local sont, et vous l'avez un peu évoqué tout à l'heure, sont de l'ordre de cette volonté d'associer les valeurs et les processus des deux cultures juridiques en présence. Et je pense notamment à ce procédé des cercles de justice qui effectivement a été mis en œuvre notamment dans les communautés nordiques par ce que l'on appelle chez nous la cour itinérante, qui reste néanmoins une cour étatique. C'est la figure, le juge de l'État quand même, qui débarque dans la communauté locale et puis qui représente et incarne le pouvoir et la puissance publique de l'État.
Donc, il a le dernier mot, quoi.
Il a le dernier mot. Cependant, un dialogue s'engage dans le processus de traitement d'un dossier pénal. Un dialogue s'engage entre les deux univers juridiques. Comment? Eh bien, d'abord par, évidemment, la reconnaissance qu'il s'agit d'un processus formellement rattaché à l'État, que le juge est le juge de l'État qui parlera au nom de la nation et non pas au nom de la collectivité autochtone, mais en même temps, en amenant ce juge à travailler en coopération avec les acteurs locaux autochtones qui, eux, vont déployer les processus et les principes traditionnels autochtones de règlement des conflits au moment de déterminer, par exemple, la solution à apporter dès lors que l'accusé a admis sa responsabilité. D'ailleurs, principe fondamental de la justice autochtone, l'admission de la responsabilité par l'individu et l'admission par la collectivité de la responsabilité, c'est le point de départ de la justice dans l'univers traditionnel autochtone.
Alors, on aura compris, Ghislain Otis, parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, que c'est un chantier, en fait, puisque on peut imaginer que dans les dispositions qui sont prises par des tribunaux autochtones, il peut y avoir des décisions qui sont incompatibles avec une justice moderne. Alors, puisqu'on parlait de l'Australie, par exemple, il y a ce qu'on appelle le payback. Un jeune, ou moins jeune d'ailleurs, qui a volé ou qui, sur un certain nombre de délits, on va lui percer le mollet en général, un membre avec une lance et il faut que le sang coule. Est-ce que ça, c'est compatible avec une justice moderne?
Écoutez, là, vous parlez du contexte australien. Si vous me faites voyager donc aux antipodes maintenant.
Ou au Canada, donnez-nous un exemple.
Nous n'avons pas d'exemple exactement identique au Canada d'infliction de châtiment corporel dit traditionnel. Je le disais tout à l'heure, la justice traditionnelle autochtone a été largement éradiquée, mais on a quand même documenté certains cas de sanctions traditionnelles, comme le bannissement, qui serait contraire à la liberté de mouvement.
Puisqu'on n'emprisonne pas traditionnellement, très rarement.
Pas du tout. Et l'exclusion, même le bannissement, est une solution de dernier recours, puisque même l'exclusion physique de l'individu, de la collectivité, était en général proscrite.
Justice plurielle, point d'interrogation. On vient d'entendre le témoignage de Ghislain Otis. Je reviens vers vous, Irène Bélier. On aura compris, évidemment, cette émission est trop courte parce qu'à l'échelle mondiale, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais on aura compris qu'il ne faut pas systématiquement repousser avec dédain ces justices communautaires, en rester à des cas extrêmes de lynchage dont on parlait tout à l'heure, comprendre qu'il y a là un chantier passionnant et qu'une justice communautaire n'est pas une justice forcément rétrograde.
Je pense en effet que la justice communautaire n'est pas nécessairement rétrograde. Je pense que dans le cas de la Bolivie en particulier, les opérations de El Alto ont donné lieu ensuite à une réflexion immense qui a abouti à la construction de juridictions propres avec un partage des territorialités pour les juridictions autochtones et les juridictions boliviennes. Les questions se résolvent par le dialogue, par la compréhension, et que c'est aujourd'hui le moment actuel, c'est de rentrer dans cette compréhension-là plutôt que d'imposer un modèle dont on croit qu'il va être la résolution finale. Finalement, on s'aperçoit que la justice dominante de l'État n'a pas permis de résoudre un certain nombre de situations et que, en revanche, comme l'a montré Maria Teresa, certaines situations concrètes sont mieux résolues par la justice communautaire qui permet en effet de repenser, comme le posait Ghislain Otis, la question de la responsabilité en des termes qui sont différents sans doute que les nôtres. Avant que l'émission ne se conclue, je voudrais tout de même, à propos de justice de peuples autochtones, mentionner quand même deux phénomènes qui sont extraordinairement problématiques aujourd'hui. Les défenseurs des droits humains autochtones sont régulièrement l'objet d'assassinats. Et donc là, il y a un problème également parce que la justice ne passe pas dans ce sens-là, et donc les criminels ne sont pas condamnés. Et un autre problème qui était aussi auquel on est confronté aujourd'hui,
il y a le droit du sol aussi, c'est-à-dire les industries extractives qui contreviennent.
Là, je dirais, c'est dans un élargissement du sens de la justice. On a évoqué un peu la question de la justice pénale. Il faudrait évoquer la question de la justice civile. Au fond, les droits au patronyme, les modes de mariage, tout ça devrait être évoqué. Et par rapport à la question de la terre, c'est pas une question de droit du sol proprement dit, c'est une question de qu'est-ce que l'on fait de la terre et à quelle fin. Et là, il y a des enjeux très importants qu'on aura certainement l'occasion de rediscuter, de justice climatique, de justice environnementale et de droit à décider de son développement et à qui sert l'extraction en question. Et donc, au lieu de criminaliser les autochtones qui défendent la terre, parfois pour en faire un usage à bon escient et pour toute l'humanité, au lieu de les criminaliser et de leur appliquer la loi antiterroriste, peut-être faut-il considérer leurs propositions.
Merci Irène Bélier, on aura compris que la déclaration des droits des peuples autochtones en 2007 n'a pas fini d'avoir des prolongements énormes et a ouvert d'immenses chantiers. Et on compte sur ce que Mireille Delma Thomas Marty a appelé si joliment les forces imaginantes du droit. Ainsi se termine Tout un monde, le magazine des cultures. À la prise de son se trouvait Jean-Michel Bernaud, à la réalisation Doria Zénine. Je vous signale, en ce moment même, va démarrer, en tout cas début avril, le Festival international du film des droits de l'homme. Tout un monde, c'est chaque samedi, avec la collaboration de Claude Armand de Castillo par Marie-Hélène Fraissé. Tends la main à Vincent Charpentier, toujours sur France Culture. Bonjour Vincent.